Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Il y a vraiment une, du coup de ma part une lassitude de voir que en fait je m'aperçois et que voilà qu'il y a une échelle en fait de priorité en fait dans le cahier antiraciste. Et c'est vrai que tout ce qui est LGBT-phobie c'est pas partie du cahier des charges en fait. Pour l'instant c'est pas une préoccupation. Donc c'est comme si on nous demandait soit de mordre le frein et de se taire ou de s'organiser ailleurs mais loin.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir. Avant donc de commencer comme on a l'habitude, je voulais te demander comment tu vas.
Ça va, je vais bien, je pense. J'ai eu pas mal de hauts et bas ces derniers temps, le confinement, plein d'inquiétudes et liées à le fait d'être enfermée à la maison. Ça aurait pu être pire, mais finalement, je trouve que je vais bien. Donc, c'est l'essentiel.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bien sûr. Alors, je suis Audrey, je suis rédactrice d'un blog qui s'appelle Day by Audrey, que je tiens depuis à peu près trois ans maintenant. Je suis aussi parent, j'ai deux enfants, un garçon qui a bientôt 16 ans et une petite fille qui a bientôt 6 ans. Je suis queer, c'est une identité dans laquelle je me reconnais et avec laquelle je suis à l'aise. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Soror Ensemble, que j'ai créée à la fin de l'année 2019 pour donner de la visibilité à des personnes noires, des personnes queer noires, des personnes qui subissent des inégalités de la société, et en leur apportant donc de la visibilité par des projets photos. Et également aussi une aide juridique parce que je mets à profit mon expérience professionnelle pour justement aider ces personnes dans des démarches juridiques ou administratives quand elles en ont besoin et quand elles en font la demande.
Audrey, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Quand je me regarde, je vois une personne, une femme, noire, qui approche la fin de la trentaine, mais pour autant souvent on me dit que je fais pas mon âge, donc c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il faut que j'explique, que je me justifie, mais voilà. Je dirais une personne qui vit avec son temps, passionnée par d'innombrables sujets qui sont centraux à mon identité de personne noire, de femme queer noire, enfin tout ce qui touche les personnes noires. Je pense que je suis très passionnée. Je pense que je 24 sur 24, je suis connectée à ce réseau-là. Et je pense, ouais, connectée à mon temps, connectée à mes préoccupations, connectée à mes convictions.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance ?
Wow. Enfance, c'est un volet très compliqué de ma vie. Je suis l'aînée de trois enfants. On est deux sœurs et mon frère est au milieu. On est séparés chacun de 2 ans. J'ai une enfance en apparence, on va dire, normale, c'est-à-dire famille la plus normale possible, un papa, une maman et les enfants. Sauf que ça, c'était ce qu'on voyait. Mais quand la porte était fermée, il se passait beaucoup de choses, dont de la violence éducative, des violences sexuelles à mon égard, de la part donc de mon père, et de la violence conjugale. Une enfance très difficile, je pense, À mesure que les années passent, j'arrive à mettre des mots dessus, en fait, parce qu'il y a une longue période de déni de ma part, en fait, où j'ai complètement occulté cette partie de ma vie. C'est-à-dire que très rapidement, pendant mes études, j'étais maman, donc après j'ai eu mon petit garçon, donc il fallait que je m'occupe de lui. Très rapidement, je me suis séparée donc, de son père, donc... Beaucoup, beaucoup de responsabilités. J'ai repris les études, élever mon fils, m'organiser, vivre, survivre en fait. Et pendant, je pense, une bonne dizaine d'années de ma vie, j'ai complètement squeezé ce qui était mon enfance et les traumatismes en fait que j'ai hérité de cette période qui représentait à ce moment-là plus de la moitié de ma vie. Donc voilà, donc, et aujourd'hui, c'est vrai que quand je parle de mon enfance, je ne mens plus en fait. Je trouve que je ne cache pas qu'effectivement j'ai une enfance compliquée et elle ne concerne pas que moi, elle concerne mon frère, elle concerne aussi ma sœur. C'est des séquelles qu'on porte chacun et chacune à notre manière, qui nous marque, qui peut aussi avoir une incidence qui aurait pu avoir une incidence en tout cas plus grave sur nos parentalités, parce qu'on est chacun devenu parent aussi, on est chacun parent, qui a déstructuré la famille en entier en fait. Ça a été un grand séisme parce que j'ai effectivement, avec l'aide de ma sœur, et je ne veux pas utiliser sa parole, en fait, en tout cas je parle pour moi, avec l'aide de ma sœur, on a porté plainte contre mon père, il y a eu un procès aux assises, une condamnation, donc c'était quand même très lourd, c'est-à-dire au niveau de la famille, c'est-à-dire se présenter en tant que victime, apprendre plein de choses sur la famille du coup à cette occasion-là, et se rendre compte qu'on découvre... plein de choses sur sa famille, plein de choses sur ses parents, plein de choses, enfin, plein de choses qu'on nous a cachées pendant des années. Donc, il y a toute une période de reconstruction et qui a été pour moi, en tout cas, latente, en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une grande période où, justement, moi, ça allait, en fait, j'étais cool... Je travaillais, j'avais un enfant, j'arrivais à faire plein de choses, à fonctionner, malgré ce qui avait pu m'arriver. Et en fait, quand cette période de déni s'est finie, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y a plein de choses, on vit d'autres choses en fait, dans sa vie de femme et tout. Et des comebacks assez violents en fait, dans la vie, et des grosses claques. Et là, on se rend compte, il y a ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle de mon enfance, je cache pas, je mens pas, j'y fais face en fait. Et du coup, ça, je pense que ça peut m'autoriser plein de choses aussi qui concernent mon engagement aussi féministe sur tous les sujets qui concernent donc les violences. Qui peuvent être faites à l'égard des personnes femmes, des enfants. Pour moi, c'est important de les dénoncer et d'en parler. Et je pense que c'est ce qui me donne aussi la force d'agir aujourd'hui, de mettre aussi à profit mon expérience professionnelle et de vie, en fait, pour au moins... parler de ces sujets en fait qui concernent malheureusement un grand nombre de personnes et qui sont pour moi des grosses préoccupations, une grande préoccupation en fait.
Merci en tout cas de nous raconter cette partie de toi. Et moi en fait ce qui m'interpelle, c'est comment tu as réussi à faire la paix avec cette partie de toi, cette petite fille en toi, après avoir eu tous ces souvenirs en fait qui ont ressurgi et avoir traversé toute cette période difficile en termes de procédures juridiques, etc.
Je pense que non, pas encore. En tout cas, on est en lutte, elle et moi. Ouais, on est en lutte, en fait. C'est compliqué, je pense. Je sais pas, je pense que j'en ai pas forcément parlé. Je voulais intégrer, je pense, l'automne dernier, un groupe de parole de personnes, de femmes qui avaient subi, pareil, des violences sexuelles et plus particulièrement d'inceste. À la Maison des Femmes, j'avais vu qu'elles ouvraient en tout cas un créneau une fois par mois. Pour me confronter aussi à la parole d'autres personnes qui avaient aussi vécu, on va dire, en tout cas, qui partageaient avec moi cette expérience, si on peut parler de ça comme ça. Mais ouais, je suis en lutte avec cette petite fille en moi. Je pense que je garde des séquelles, surtout mentales. De cette période-là et c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être encore difficile ou ça l'a été dans le passé pour m'émanciper en tant que femme voilà. Après, je pense que je suis une personne quand même assez privilégiée parce que j'ai quand même bénéficié d'une certaine éducation et je pense que c'est ça qui m'a sauvée en fait, parce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique pour moi dans un parcours de vie beaucoup plus chaotique, avec vraiment des sorties de route comme la drogue, comme pas mal de choses qui peuvent arriver à des personnes qui vivent des traumatismes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu récemment un livre sur le traumatisme et j'ai vu qu'en fait que le traumatisme concerne tous les événements, en tout cas... grave qu'une personne peut connaître dans sa vie, donc le deuil, le décès, les catastrophes naturelles, les accidents et tout, et comment justement oui, la mémoire traumatique et les syndromes post-traumatiques se manifestent de façon différente chez les personnes, et ça peut avoir une incidence sur son comportement, comment on relationne en fait avec les gens, dans la vie sentimentale, la vie sexuelle, la vie parentale en fait. Et donc on se rend compte que c'est vrai que si c'est pas traité, si en fait en plus le traumatisme n'est pas su, dit, évoqué, ben on répète en fait, on répète des choses. Et donc ça a été intéressant pour moi de faire certaines lectures, de faire certaines rencontres aussi. Je pense que ces dernières années, j'ai fait des rencontres quand même assez importantes dans ma vie qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup apaisé aussi. Donc c'est en ça aussi je me trouve chanceuse aussi d'une certaine manière de pouvoir aujourd'hui m'en sortir, de pouvoir aujourd'hui utiliser ma parole pour faire plein de choses, élever des enfants, travailler, enfin d'être fonctionnelle en tout cas socialement. Mais voilà, donc c'est vrai que je pense que j'aimerais en tout cas... me dire qu'un jour je suis apaisée, j'oublierai pas, il y a des choses qui resteront là, mais en tout cas me dire que on est en paix, elle et moi en fait, un jour.
Et à partir de quand et comment t'as commencé à comprendre que c'était pas normal ce que tu vivais à l'intérieur de ta famille et que tu pouvais être victime de ta propre famille aussi? Et est-ce que t'en parlais avec tes frères et sœurs?
Je pense que je l'ai compris pas tout de suite, parce que bah, forcément, on grandit, on est censé être élevé et aimé par des personnes qui nous aiment, qui nous protègent. Et quand ça nous arrive donc à l'intérieur de la famille, on se dit « mais en fait, mais c'est pas possible en fait ». On est sous l'autorité en plus de ces personnes-là, parce que c'est eux qui nous éduquent, qui nous donnent à manger, qui font plein de choses en notre nom aussi. Donc on leur fait confiance. Je pense qu'il y a une confiance que les enfants ont, même envers leurs parents malveillants, violents en fait. Et c'est vrai que quand on se rend compte que son ou ses parents peuvent avoir des comportements violent, dangereux à son encontre, on a une période où on perd confiance en eux, mais on perd aussi beaucoup confiance en soi parce que on se rend compte qu'à l'extérieur, en plus de la cellule de la famille, c'est des sujets qui ne sont pas abordés. Donc on se dit, on vit ça, mais en même temps, on se rend compte que on est seul à vivre ça, en fait. On se dit, bon, bah, c'est pas normal non plus. Et on se retrouve seul, en fait, avec son problème, en gros, entre guillemets, et on ne sait pas trop comment le régler, parce que les personnes qui sont garantes un peu de notre sécurité sont ceux qui nous font du mal, et qu'à l'extérieur, on se dit que ce soit à l'école ou... je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport, donc les copines, ben, on se dit que mais personne ne va vouloir me croire, personne ne va pouvoir même entendre ce que je peux dire, et ça va sembler tellement être pas normal que c'est pas possible, et donc je pense qu'on garde ça pour soi. Les violences dont j'ai été victime, moi personnellement, je ne les ai pas, j'en ai pas parlé à mes frères et sœurs, à mon frère et à ma sœur. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je pense que après, il y a tout un travail de travail. C'est pas le mot, mais je pense que les personnes qui agressent soumettre en fait les personnes qui abusent. Et je pense que j'avais aussi très peur en fait de ce qui m'arrivait et que si j'en parlais, ça allait être quelque chose que moi, enfant, adolescente, je pouvais pas gérer en fait. Je pouvais pas mesurer l'impact que ça pouvait faire une sorte d'annonce et qu'est-ce que ça allait faire après et comment j'allais faire et comment j'allais me débrouiller. Donc j'en ai pas parlé. Par contre, du coup, tout ce qui était violence éducative, on en parlait en fait entre nous, bien entendu, parce que on était tous les trois là-dedans et qu'on subissait aussi des choses. Mais sans savoir comment on pouvait s'en sortir. Je pense qu'on n'était pas au courant des moyens qui pouvaient être mis à notre échelle pour nous protéger. Et pareil, je pense qu'il y a aussi une sorte de défiance et il y a une sorte de choses qui s'amorcent, c'est-à-dire l'attente, en fait. On attend juste le moment où tout ça va prendre fin, en fait. Et on attend en fait la porte de sortie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un moment où il y a eu un grand tumulte dans la famille. Le couple de mon père et de ma mère pour moi n'a jamais fonctionné, mais à ce moment-là, ça n'allait vraiment pas. Moi, j'étais en train de préparer un peu, on va dire, une sorte de porte de sortie du coup personnelle, parce que ben je me voyais pas comment je pouvais continuer à vivre dans ces conditions. Donc je rentrais à l'université, donc je me disais que j'allais faire la demande pour entrer dans un foyer de jeunes étudiants. Enfin, j'essayais de m'organiser comme ça. Et c'est vrai que quand ma sœur me fait cet aveu, ben je me voyais mal continuer mes petits plans perso de fuite. On en a parlé à notre mère. Et ben, on a porté plainte tout de suite après, quoi. Alone, every night alone, why am I alone? I know that you want me to, am I wrong? Tell me that I'm wrong. Tell me I deserve all the pain that you put me through. Oh. I really hate that I give a fuck. Pressing my line, I don't wanna pick up. We know. Est-ce que tous ces traumatismes t'empêchaient de rêver, de t'imaginer grandir ? Est-ce quel métier tu rêvais de faire plus tard ? Alors non, ça m'a pas empêché de grandir et je pense que c'est ça la force en fait de l'enfant en fait, c'est aussi cette résilience, cette capacité à vivre en fait malgré les horreurs. Et je pense que je suis pas la seule enfant à avoir subi des horreurs et d'avoir des espérances, d'avoir des souhaits pour soi-même, de nourrir plein d'attentes sur la vie. Je pense que heureusement, en fait, je pense que c'est ce qui fait aussi vivre, ce qui fait aussi continuer et faire des choses. Il y avait l'école aussi, et puis il y avait le sport qui était des moments, en tout cas pour moi, de répit et de pause, qui faisait que quand j'étais dans certaines activités, quand j'étais à l'école, bah, j'étais complètement déconnectée de mon environnement, et je me rendais compte que c'était quand même possible d'avoir une autre vie, d'être dans d'autres dynamiques qui étaient très bien, de rire, de grandir. Après, j'ai toujours été une enfant très réservée, très discrète, très effacée. Je pense que c'est quelque chose qui m'a caractérisée très très longtemps, parce que j'étais très enfermée. C'est vrai que j'étais... on m'a beaucoup dit que j'étais sans expression, ou qu'on avait du mal du coup à savoir ce que je pouvais ressentir, penser, parce que je pense que c'est ce que j'ai vécu. En tout cas, ça se caractérise comme ça chez moi. En tout cas, je suis très un peu flegmatique, comme si y a rien qui m'atteint, il n'y a rien qui me blesse. Mais je pense que ça a été, je pense, un mécanisme de défense pour moi, pour me protéger et pour... peut-être supporter un peu aussi ce que je vivais, et ce qui m'a permis aussi du coup de dissimuler et cacher aussi ce que je vivais au sein de ma cellule familiale, que ce soit aux autres membres de la famille étendue et à l'école, parce que c'est vrai que du coup j'ai pas été une enfant qui fait des tentatives de suicide, des fugues, qui s'est mis dans des comportements, on va dire, un peu rebelles, qu'on peut déceler des fois chez les enfants, et qu'on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ouais, j'étais un peu une sorte de... Je passais un peu partout, et un peu inaperçue aussi. Donc, mais ouais, j'avais beaucoup de rêves. À un moment, je voulais être infirmière. Et en fait, j'ai passé le concours et tout, et après, je me suis dit « Mais en fait... je suis tellement douillette, j'ai tellement peur de tout. Comment je vais faire pour devenir infirmière ? En fait, c'est genre juste impossible. Donc du coup, voilà, j'ai laissé tomber un petit peu ce...
Et tu as eu les résultats du concours ?
Oui, oui, oui. Oui, je l'avais eu, mais juste la moyenne. Mais en fait, après, je me suis dit non, en fait. Et puis, quand je l'avais passé, je n'avais pas eu mon bac. J'ai redoublé ma terminale. Donc de toute façon, ça a tombé très bien, parce que le rêve d'être infirmière tombait à l'eau, mais bon, c'est allé. Après, je me suis un peu cherchée, je pense. J'ai fait un peu des études, un peu de langue bateau à la fac. Et puis en fait, c'est après la naissance de mon fils que je me suis redirigée vers le droit, en fait. Qui me semblait être une filière qui me correspondait un peu mieux. Et donc voilà, je me suis un peu lancée dedans, et voilà.
Et tu as réussi à conjuguer ta vie de nouvelle maman et de l'apprentissage du droit ?
C'était dur, surtout qu'en plus j'étais dans une vie familiale, du coup personnelle, parce que maintenant j'étais... une adulte, et maman en plus, donc compliqué. Donc, il a fallu, donc effectivement, j'avais mon fils, et j'ai repris, il avait un an, j'ai repris dans le domaine donc du droit, mais j'ai fait des contrats de qualification, parce que effectivement, c'était beaucoup trop lourd de pouvoir conjuguer une vie de. Comme on appelle, d'étudiante classique avec la vie que je menais. Et il fallait aussi que je puisse... je vivais donc maritalement, et on avait des charges et loyers. Donc voilà, donc ça me semblait être le meilleur moyen, donc, du coup, pour continuer des études, avoir une vie de famille et pouvoir m'en sortir, en fait. Donc voilà, et puis comme je disais un petit peu au début, j'ai dû me séparer du père de mon fils... il était jeune, donc il a fallu aussi que je puisse pouvoir subvenir à nos besoins, à nous deux pleinement. Donc voilà, donc la vie professionnelle en alternance, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour à faire, en tout cas. C'est vrai que quand j'ai choisi cette voie-là, au début, c'était vraiment très alimentaire. Je ne vais pas mentir. J'avais des impératifs économiques qui toquaient à la porte et donc j'y suis rentrée comme ça. Et je pense qu'un peu plus de 10 ans après, aujourd'hui, ça représente beaucoup. Ça représente du savoir, ça représente une compétence, ça représente aussi des facultés aussi de pouvoir du coup me défendre, se défendre. Et du coup, tout ce que j'ai appris, les expériences aussi, parce que j'ai eu pas mal d'autres expériences professionnelles, ça m'a beaucoup enrichi. Et aujourd'hui, c'est ce que je mets du coup aussi mes expériences du coup dans le blog et maintenant plus récemment donc dans l'association. Aujourd'hui, je peux aider des personnes, je peux les aider dans des démarches. Du coup, c'est des choses voilà. Donc aujourd'hui, financièrement, ça m'apporte du coup un salaire, et voilà, mais aussi aujourd'hui une sorte de une compétence aussi que je mets au service de mes convictions politiques et sociales en fait.
Et en parlant de ton association Soror, concrètement, quel est le nombre de non. Concrètement, quel est le but de l'association, les personnes qui y sont? Est-ce que c'est une démarche qui est plus donc ciblée juridiquement ou c'est un espace de parole ou...
Je pense que c'est un peu tout. Je le veux comme un espace de parole, un espace aussi, de représentation et un espace où quand la demande peut être demandée, la demande est faite, pardon, un espace où je peux du coup aider les personnes, comme je disais, soit juridiquement s'ils ont un. En tout cas, les aider, les écouter et puis les guider, en tout cas vers des professionnels, vers des avocats, parce que effectivement, je ne peux pas prendre en charge certaines tâches. Il y a des procédures, il y a des litiges qui nécessitent donc l'intervention d'un avocat. Mais en tout cas, moi, je peux déjà leur donner des conseils, les diriger. Et aussi dans les démarches administratives, en tout cas, pouvoir leur donner en tout cas les premiers renseignements pour les aider, où chercher l'aide, qui contacter, quoi faire. Et je trouve que c'est des informations qui manquent, c'est des informations par moment qu'on n'a pas. Et c'est assez étrange, mais c'est vraiment des informations qui ne se partagent pas, alors qu'il y a tout un portail d'aide, de ressources, de choses qui font que ben, on peut par moment alléger sa situation, ses problèmes, quand on sait certaines choses en fait. Donc voilà, donc je mets un petit peu à profit tout ce que j'ai appris aussi dans ma vie perso dans l'assaut.
Souvent quand on est une personne noire ou une personne queer ou les deux, on se dit que la justice c'est pas pour nous, c'est pour les personnes très privilégiées, le droit d'obtenir justice. Toi justement, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais retourner? C'est quoi ton rapport à la justice aujourd'hui?
Le rapport à la justice il est très compliqué, je pense. Je pense que la justice, on la veut pour tout le monde. En tout cas, on la voudrait pour tout le monde. Moi, j'ai eu un recours à la justice. Donc, c'est vrai que de l'expérience que j'en ai eue, en tout cas, quand il a fallu que quelqu'un intervienne pour moi, j'avais besoin d'elle. J'avais pas forcément besoin. En tout cas, aujourd'hui, j'ai maturé cette question, mais j'avais pas forcément besoin qu'on reconnaisse le préjudice qui m'avait été causé aussi bien à ma sœur et à mon frère et à l'ensemble de ma famille. Mais j'avais besoin, en tout cas, de dénoncer ce que j'avais vécu, que c'était pas une lubie, que c'était vraiment vrai, et que je savais en fait que ce que j'avais subi était répréhensible en fait, et que d'une certaine manière qu'il fallait que ça soit condamné. Mais dans ce que la justice ne fait pas, c'est que derrière ces condamnations, derrière ces, Ces décisions, en fait, il n'y a pas vraiment de réparation sur ce qu'on a vécu. Je pense qu'il y a tout un travail sur ce qui est les traumatismes, la prise en charge des traumatismes, qui est complètement occulté. En fait, on sort avec un jugement qui nous fait sortir, on va dire, gagnante. Mais derrière, il y a tout le travail personnel, mental, impact, en fait, dont la justice ne pourvoit pas, en fait. On nous donne, il peut arriver qu'on sorte avec une condamnation qui nous indemnise financièrement, mais l'argent, ça sonne fort sur le moment, mais on le dépense, donc il reste pas grand-chose de ça. Donc je trouve que la justice, en fait, c'est quelque chose qui reste pour moi très abstrait. C'est quelque chose qui est effectivement pas pour tout le monde. Moi, je suis privilégiée, encore, je le dis. J'ai pu, en fait, porter plainte. J'ai pu aller dans un commissariat et raconter ce qui m'était arrivé. On m'a cru. Et on m'a cru, alors je ne sais pas, parce que j'avais... j'avais un journal intime, j'avais écrit des choses, donc je ne sais pas si ça jouait en ma faveur. Moi, il y avait aussi ma sœur, mais enfin bref, je sais que ça aurait été difficile. Je sais que c'est un parcours, en tout cas, qui peut être compliqué, en tout cas la justice pour les personnes lambda ou les personnes qui sont pas concernés, en tout cas qui se sentent pas concernés par cet organe de l'État et qui devrait être universel et pour toutes et tous. Donc je pense que avec les actions, en tout cas que moi je mets en œuvre personnellement, j'essaie en fait de rétablir du coup cette justice à mon échelle, c'est-à-dire mettre à disposition les savoirs que j'ai accumulés dans ma vie au service d'autres personnes, me dire que je peux utiliser une plateforme, ma voix, mon blog, pour visibiliser des personnes qui font des choses. Pour moi, du coup, la justice, elle peut s'organiser d'une autre manière, entre nous, dans des cercles, entre pairs, et puis s'organiser pour des droits, pour les droits pour les personnes qui sont pas concernées par des droits sociaux. Donc, je pense qu'après, il faut pas en attendre trop, en fait, effectivement, de cette justice, parce que on risque d'être très déçus, en fait, de ces résultats.
Ça me fait penser, en fait, à toute cette question de la justice réparative, et dans les milieux féministes aussi, on en parle souvent, de ce que c'est toute cette chaîne, en fait, légale du processus jusqu'à l'incarcération des agresseurs, etc. Et ce que ça signifie, et ce que ça a fait ses preuves, au final. Et quand tu as parlé des cercles, je trouvais ça... On en discute souvent. Je ne sais pas si toi, tu as eu... pas des discussions par rapport
non,
à ça.
Non, pas vraiment.
C'est une réflexion personnelle.
Ouais, c'est une réflexion personnelle, mais je pense qu'on se répare plus, en tout cas, dans des cercles beaucoup plus restreints, organisés autour des personnes concernées par certaines problématiques, je pense, plus que par une autorité étatique ou sociale, en fait, qui je pense, n'est pas faite, en fait, pour, du moins, en tout cas... n'est pas faite, en fait, pour réparer chacun et chacune individuellement. Je trouve que quand mon père a été condamné, donc il m'a été conseillé, effectivement, donc j'avais moins de 26 ans, donc il m'a été conseillé de consulter un professionnel de la santé mentale, et du coup je pouvais le prix de la consultation pouvait être pris en charge par les CMP, en fait. Mais pareil, on se rend compte que quand on fait appel à un CMP, la liste d'attente est tellement longue que pour avoir un suivi, c'est quasiment pas possible. Donc finalement, on sort de ce dispositif qui est fait à la base pour les victimes. Et si on veut être soigné, on est obligé de sortir de cela, parce que les temps de prise en charge sont tellement longs avant d'avoir une première consultation que... on est obligé, en fait, de si on veut se soigner, si on a des vraies problématiques, de prendre un professionnel qui sort de ce cadre, en fait, ce dispositif qui normalement devrait fonctionner pour les personnes victimes. Donc voilà, donc on sent que du coup l'entonnoir se fait beaucoup plus petit parce que après il faut avoir les moyens aussi de payer un professionnel de santé mentale, et puis aussi il faut être je pense aussi prête dans sa tête d'entamer une thérapie, un processus thérapeutique qui peut être lourd et sans être injonctif, des fois se lancer dans ce type de démarche, ça peut être compliqué en fait dans la vie. Donc voilà, il y a tout ça en fait qui n'est pas dit, quand c'est vrai quand on nous en parle pas de tout ça en fait, et on apprend ça en fait comme ça en fait. On tâtonne, on ne sait pas où on va, on n'est pas pris en charge, on cherche et plein de choses s'accumulent et donc ouais, ça devient compliqué.
Pour définir ce que c'est qu'un CMP, c'est un centre médico-psychologique, et normalement il y en a un qui vous est attribué par ville, donc vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, ça vous permet d'avoir un suivi psychologique gratuit, parce que les psychologues ne sont pas remboursés par la Sécu, peut-être en partie par votre mutuelle, et en revanche les psychiatres ça peut l'être en secteur 1. Oui, parce que globalement, la justice est plutôt répressive et non réparatrice.
Oui, en plus. C'est vrai que tout est organisé pour effectivement être répressive. Donc, l'incarcération, du coup, l'indemnisation qui est prise en charge, du coup, en tout cas, sur la personne qui est coupable. Tout ça, c'est très bien organisé, ça marche très bien et tout. Mais c'est vrai que tout ce qui va concerner les personnes victimes et... qui subissent certains crimes, délits, on se rend compte qu'une fois que la justice a rendu sa décision, on est un peu lâché. On est lâché.
Et justement, en fait, on parlait de justice. Les luttes LGBT pour obtenir des droits, les mêmes droits que tout le monde, continuent. Et toi, en tant que personne queer et en tant que parent, justement, comment est-ce que tu trouves que tu es reconnue dans tes droits? Et qu'est-ce que tu penses de la lutte qui reste à mener?
C'est vrai que je suis parent aujourd'hui, depuis quand même presque 16 ans. Et je trouve que c'est important. Que ces luttes, en tout cas pour les personnes queer et qui voudraient être parents, soient encore d'actualité en fait, je déplore aussi surtout qu'on ait encore à se battre sur ces questions-là, parce que c'est vrai que être queer ou être gay, ça n'a rien à voir avec une envie ou d'être de parentalité. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on doive justifier en fait des choix de vie personnels. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas eu en fait à me positionner, on va dire, sur ces questions-là, parce que j'ai eu mes deux enfants de façon naturelle, avec deux hommes, et j'ai toujours été perçue pendant très très longtemps du coup comme étant une personne hétéro. Dans sa féminité la plus normale, on va dire, et que même une suspicion, en fait, une suspicion, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais il n'a jamais été question qu'on puisse questionner, en tout cas, ce que pouvaient être mes attirances romantiques et sexuelles. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des enfants, on va dire, du coup, simplement. Mais ça m'a vraiment toujours interpellée. Si moi, j'avais ce désir de maternité, de parentalité, et si j'avais été vraiment dans une situation où je ne fais pas intervenir du coup un partenaire, on va dire, masculin, voilà, ça aurait été effectivement une grosse problématique, je pense, de ma vie perso, parce que ça reste compliqué en fait, et on a bien vu pour ce qui est de la PMA pour les femmes lesbiennes et les femmes seules en France, on est encore loin de l'égalité et que c'est toujours pas voté et que même dans les conditions dans lesquelles les textes en fait qui sont sortis montrent que ça restera toujours à la charge en tout cas financière de ces populations. Donc c'est, pour moi c'est une discrimination que d'interdire en fait le droit à la parentalité à des personnes en raison d'une orientation sexuelle. Donc c'est compliqué je trouve, et je trouve que c'est compliqué aussi du coup de se dire que ouais, la justice n'existe pas en cette matière et qu'il faille passer par des luttes, par des combats, par des dénonciations, par plein de choses pour obtenir une égalité, l'égalité pourtant qu'on nous fait croire que l'on a en fait. Donc on a l'impression qu'on réclame un dû. Et je trouve que c'est assez bizarre parce que on se trouve légitime en fait à demander notre dû, mais en face on te demande des justifications, tout un panel de choses pour les avoir. Donc il y a un truc très très bizarre sur le fait d'avoir à lutter pour quelque chose de naturel en fait.
Et au sein même de cette demande là, par rapport à la parentalité, il y a des personnes qui sont encore plus discriminées, notamment du fait de du coût qui est super élevé pour les personnes on va dire racisées, qui n'ont pas forcément qui n'ont pas de capital économique,
oui.
Ou les personnes trans, enfin
oui.
Et on se rend compte que c'est
oui,
sans
sont,
fin d'une certaine manière,
qui sont exclus quasiment de ce dispositif de la société en fait. On les sort de la société, on leur fait comprendre que ils n'ont pas part, et ça c'est grave en fait, je trouve. J'arrive pas en fait à imaginer comment c'est possible, mais pourtant c'est une situation qu'on vit encore aujourd'hui, mais pour moi, c'est de l'aberration. L'aberration.
Une aberration légale.
Oui, légale, ouais.
C'est ça qui est le plus flippant, en fait.
Ouais.
Et du coup, tu as évoqué le fait que tu étais en couple hétéro. Est-ce que, pour toi, tu performais l'hétérosexualité ou c'était juste que tu ne te posais pas de questions jusqu'à ce qu'il y ait un déclic salvateur?
Le parti pris.
La question n'est pas objective du tout.
Après, j'ai été élevée dans patriarcat le plus basique, comme je vous disais, hein, papa, maman, les enfants, et puis voilà. Toujours, je pense, zéro représentativité autour de soi. Et puis, même quand on sent évoquer ces questions-là, tu vois les grands yeux, les insultes, les jugements sur ces questions, tu dis bon, ok. Donc tu dis bon, voilà, je pense que j'ai performé, je pense, ce rôle féminin, parce qu'en plus, je suis une femme, je ressemble à une femme, je suis la femme, quoi. En tout cas, quand on me voit, il n'y a pas de doute sur ce que je suis et tout. Donc voilà, donc j'ai réussi à être dans ce rôle-là, mais il y a toujours eu des questionnements de ma part très tôt sur mon attirance, sur la sexualité, voilà, et mon parcours en fait c'est parsemé de plein de petites choses comme ça. Jusqu'à où on se dit que on peut assumer en fait, où on se dit que aujourd'hui on est dépassé les 2000 et quelques, et qu'on peut être une femme, avoir eu des enfants avec des hommes et pas se rendre compte, parce que pour moi je me suis pas rendu compte, je le savais depuis longtemps, mais je pense qu'il y a aussi une période où je me suis pas permise de vivre cela, parce que je voulais aussi me préserver de certains jugements, de certains regards, et puis même c'était aussi une façon, je pense, de me regarder moi-même aussi, de me dire en fait je suis cette personne et comment en fait, c'est toujours cette question, c'est comment quand on est cette personne, comment on vit dans une société où effectivement il n'y a pas de place pour les personnes comme moi, ou s'il y a une place, elle est durement arrachée, il faut qu'elle soit prise. Et je pense que des fois, il y a des combats dans la vie que soit tu remets un peu à plus tard parce que tu dis, bon, là, c'est un peu compliqué. Ou effectivement, t'y vas, en fait. Je pense qu'il y a des moments, et donc j'ai pris, je pense, ce moment j'ai pris ce moment, je me suis autorisée, je dirais, de vivre cela un petit peu, du coup, dans ma trentaine, à me dire, bah, écoute, oui, voilà, il y a pas de raison que j'ai à cacher, que j'ai honte, que les personnes tolèrent ce que je sois. Et il y a aucun problème, en fait, pour moi, ça me pose aucun problème, donc... je suis très bien dans ce... Je suis très bien, c'est moi, en fait. C'est juste moi, donc c'est, tout est OK. Donc, du coup, tout s'articule du coup, beaucoup plus facilement, ne serait-ce que dans ma parentalité avec mes enfants. C'est des sujets que j'aborde. C'est quelque chose que je parle ouvertement. Ici, on regarde beaucoup... Je parle beaucoup avec ma fille. J'ai jamais caché du coup ma vie sentimentale à mes enfants, donc ils sont au courant. Et c'est vrai que du coup, ça donne une sorte de dynamique un peu plus, beaucoup plus libre. Et du coup, on est beaucoup plus en face les uns avec les autres, parce qu'on est aussi dans une vérité, vérité en fait, où chacun peut dire, chacun sait. Et donc c'est important, mais c'est vrai que c'est pas forcément très évident, parce que on peut se heurter en fait au regard, au jugement, et aussi du coup à l'homophobie des gens de sa famille, des gens de l'entourage. Donc, voilà, je pense qu'après il y a toute une prudence, je pense qu'on doit partager, je pense, entre personnes queer. On est très prudent, on fait attention. Je sais pas, il y a une sorte de compétence aussi qu'on a, qu'on développe du coup par nécessité, par esprit de survie, je pense. Donc voilà, mais ouais.
Et justement, en parlant de ce parcours, est-ce que tu peux dire que tu as eu une entrée dans le milieu queer ? Est-ce que tu t'es sentie acceptée, sachant que tu es une femme noire, qu'il y a des dynamiques aussi spécifiques, on va dire, à la communauté ? Comment ça a été pour toi ?
Le comité d'accueil.
Bah, en fait, le comité d'accueil, tout le monde m'attendait, ils attendaient plus que moi. Non, en fait, j'aurais aimé. mais tout, pareil, en fait, il y a toujours ce truc où tu sais pas trop où tu atterris, et tu te dis, pareil, si est-ce que je vais en parler ? Est-ce que je vais m'annoncer ? Est-ce que je vais dire c'était pas forcément quelque chose que j'annonçais du coup au départ, quand j'ai commencé à être beaucoup plus aussi active militantivement. Et très rapidement, c'est vrai que je me suis très vite donc détachée, on va dire, de tout ce qui va être milieu militant, beaucoup plus tradit, parce qu'effectivement, il y avait des questions et des problématiques qui n'étaient pas abordées, inhérentes à ce que je suis et ce que je vis tous les jours. Et pour moi, c'était du coup un problème, parce que c'est toujours difficile quand encore dans une minorité, t'es la minorité et t'arrives avec des problématiques que personne connaît. Mais voilà, donc j'avais pas envie en fait d'être encore toujours de la différente, la personne qui a à voir. Donc c'est vrai que très rapidement, tu te diriges vers, encore comme je disais, dans une niche des personnes qui partagent en tout cas dans les grandes lignes ce que toi tu vis. Donc je dirais que l'entrée dans le monde queer a été s'est fait dans une sorte de d'événements autour donc de cette identité, des pique-niques, des soirées, des rencontres entre pairs. Mon entrée en fait a été comme ça. Il y a le monde aussi de la nuit, les sorties en fait, qui peut aussi être une sorte d'entrée, même si j'ai pas forcément plus investi que ça, mais c'est vrai que du coup, t'as l'impression de toujours avoir à creuser, en fait, tout le temps et longtemps pour être un peu à la maison, en fait. C'est ce truc-là où ouais, t'as du mal à être chez toi, avec les tiens, parce qu'ils sont cachés, en fait, tu vois. Donc, faut chercher. C'est vrai qu'il n'y a pas une sorte de chemin balisé et dire « Eh oh, ah, t'es là ? Bah viens, c'est ici !» Donc, c'est un peu dur. C'est un parcours, des fois, qui est un peu difficile. Et qui peut être des fois, je pense, décourageant. parce que ouais, c'est compliqué en fait, c'est compliqué de se retrouver et de s'aimer entre nous-mêmes du coup, parce que le parcours aussi est tellement compliqué, visiblement, la société, les parents, la famille, le travail. Et quand arrive la question de l'amour, je pense qu'après, des fois, c'est difficile de s'aimer dans un monde, dans une société autour de gens qui te regardent, qui attendent que tu te casses la gueule, qui regardent comment tu vis et comment tes enfants vont, parce que bah, forcément, t'es pas normal, donc forcément, tes enfants vont pas être normaux. Et donc, ouais, c'est dur d'aimer, en fait. D'aimer et de s'aimer et d'aimer l'autre, en fait. C'est tellement dur, tellement dur.
Et dans ton cheminement pour accepter ton identité queer, comment est-ce que tu t'es familiarisée aussi avec le vocabulaire qui va avec et avec ta propre identité?
Alors je veux pas me tromper en tout cas mentir par rapport à mon parcours, mais je pense que j'ai eu un parcours un peu typique. J'avais assisté il y a quelques années à une conférence sur Zuckzuck, du coup sur les identités sexuelles, et qui disait que pour les personnes, en tout cas pour les femmes qui me ressemblent, c'est-à-dire féminines, et qui après se découvrent, entre guillemets, être homosexuelles, il y avait peut-être une homogénéité du parcours, c'est-à-dire au début on est hétéro, après on se dit « oh, ben, je suis peut-être bisexuelle », et puis il y a tout ce parcours qui se définit en tout cas sur cette potentialité de bisexualité, et puis après il peut arriver qu'on s'arrête à cette bisexualité, et puis on va pas plus loin, mais maintenant après il y a d'autres termes qui existent, la pansexualité et plein d'autres termes, mais bon, on peut s'arrêter à juste se dire bisexuel, et puis après effectivement il y a certaines personnes qui restent dans cette bisexualité et qui leur va très bien, ou effectivement on va plus vers la définition de se dire lesbienne, et après avec le terme politique Gwyn, qui a cette portée de réappropriation en fait, et dans la lutte pour la visibilité des personnes Gwyn. Je pense que la connotation assez négative du mot lesbienne, ben ça peut aussi jouer sur, je pense, sur le fait de se dire que quand on se présente, ah ben je suis lesbienne, on a l'impression, on le dit un peu très vite ou pas du tout ou ou à peine, parce qu'on se dit voilà, on voit tellement d'images qui peut-être nous conviennent pas, donc, et puis on a bien vu que quand on tape, et bon là ça va un peu mieux, mais quand on tape le mot lesbienne dans sur Google, ben on a tout un panel de choses qui n'ont pas du tout de rapport avec ce qu'on vit, donc on est mince, et donc peut-être on l'assume pas, je pense, ce mot-là. Et donc c'est vrai que je me dis queer parce que je pense que c'est un terme dans lequel aussi je me sens beaucoup plus à l'aise et qui regroupe aussi mes préoccupations politiques, parce que je trouve que du coup ça englobe beaucoup plus de monde dans cette appellation, et dont je fais partie aussi politiquement, dans la reconnaissance dans les droits des personnes trans. Et donc, du coup, voilà, j'aime bien me dire que je fais partie de cet ensemble de personnes.
D'ailleurs, donc là, tu faisais peut-être mention de l'action que, je crois que c'est Lesbienne SEO qui avait interpellé en fait,
ouais,
Google
pour
référencer le mieux mot
oui.
Lesbienne, pardon.
Oui.
Et moi, je les ai interpellés, mais j'ai pas eu de réponse. En disant que, en fait, le mot lesbienne, quand on tapait le mot lesbienne, ça l'est, mais quand on tapait lesbienne noire ou lesbienne asiatique, etc.,
ah ouais.
Et ben là, les images, c'est toujours la bataille, mais j'ai pas eu de réponse. Mais voilà, disons que c'est petit à petit.
Oui, et puis c'est vrai que quand on même dans l'imaginaire, on va dire le plus positif possible, c'est vrai que quand on s'imagine une lesbienne, on l'imagine très rarement noire en fait, parce que ben, y a tout un truc où tu peux pas être lesbienne et noire en fait, c'est pas possible. Mais c'est compliqué en fait c'est vrai que se définir, pour moi c'est pas une nécessité, et voilà, mais tu te rends compte que parfois t'es obligé en fait, parce que les codes sociétaux font que à un certain moment il faut s'annoncer, il faut dire qui on est. Parce que voilà, parce qu'on aime les cases, on aime les appellations et les étiquettes, mais du coup, comme beaucoup de choses sont à déconstruire, il y a beaucoup d'images négatives, donc se réapproprier en fait certains mots, certains titres, certaines étiquettes. C'est ça, ça demande même pour soi-même se dire est-ce que je suis une lesbienne ou pas, ou est-ce, donc c'est vraiment un questionnement, et je pense que c'est un questionnement qui reste donc du coup personnel, et je pense que il faut être à l'aise avec, et je pense que ce soit les amis, les conjoints, les conjointes, la famille, personne à redire sur ce qu'on est et comment on a envie de se définir. Et pour moi, c'est important en fait. Je deviens très agressive quand vient du coup la question de mon identité, et que bah, des personnes me disent en fait.
Et on parlait aussi de cercles militants et d'associations. Et de Black Lives Matter aussi, qui a été fondée par 3 femmes noires et queer, qui sont souvent en première ligne de la lutte antiraciste. Et ça pose aussi la question de comment est-ce que nous, les communautés noires, pouvons adresser ou non les questions LGBT et les LGBT-phobies. Qu'est-ce que t'en penses, toi, aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves que c'est suffisamment abordé et bien abordé, de manière sereine ?
Alors non, c'est pas suffisamment abordé, et j'avais envie juste de rebondir sur le fait que quand les femmes noires, elles ne sont pas victimes d'oppression, d'inégalité, de violence, c'est soit elles sont souvent aussi, comme tu l'as dit, à l'initiative d'organisations. On l'a vu donc avec les 3 femmes queer noires qui ont fondé le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. On l'a vu aussi par l'effacement de Tarana Burke avec MeToo. Il a fallu vraiment qu'on creuse pour qu'on se rende compte qu'elle en parle depuis des années. L'invisibilisation, encore une fois. Kimberlé Crenshaw, Moya Bailey, qui ont inventé, en tout cas, des réflexions sur ce que vivent particulièrement les femmes noires dans des sociétés blanc-triarcales. Donc, on se rend compte que quand même, les femmes noires, effectivement, sont très impliquées dans ce qui les traverse, qu'elles vivent, et s'organisent, en tout cas, sont très, très actives dans les sujets de justice sociale pour les vivre, en fait, dans leur trip et quotidiennement, dans leur identité, dans leur famille, parce que c'est aussi beaucoup elles qui sont en charge d'élever les enfants. Donc on se rend compte qu'elles sont toujours là. Je trouve que c'est dommage que du coup cette convergence entre antiracisme et LGBT phobie n'arrive pas à se croiser, à s'entendre et à s'embrasser les uns les autres, parce que en fait il s'agit pas de faire des échelles en fait de souffrance, qui souffle plus, qui doit monopoliser plus l'échelle des oppressions. Le but, c'est vraiment de démanteler en tout cas un système qui est inégalitaire et qui se révèle inégalitaire toujours pour les mêmes personnes. Et on s'est rendu compte beaucoup que, en tout cas dans les sociétés blanc-triarcales, c'est les femmes noires qui souffrent en tout cas le plus de certaines inégalités sociales, médicales, professionnelles. Et quand on rajoute en plus une identité sexuelle, on va dire dans les normes sociétales, ben, elles se retrouvent en fait complètement exclues en fait. Et je trouve que du coup les LGBT-phobies dans nos communautés nous empêchent en fait effectivement de mieux nous organiser, d'aborder du coup ces sujets, parce que c'est vrai que même au sein même de nos familles, ça peut être des sujets qui sont compliqués à aborder. Donc déjà, il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, un parcours assez difficile aussi dans cette revendication d'identité. Et politiquement, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre qu'on tombe dans des cercles, dans des organisations où on serait les bienvenus, et on se rend compte qu'effectivement, il faut... Parce que ce n'est pas gagné, en fait, qu'il y a encore beaucoup d'invisibilisation, beaucoup de violence, beaucoup d'effacement et beaucoup de déni aussi sur ce que sont les personnes, ce qu'elles vivent, et le fait qu'elles doivent crier pour qu'on les entende, ou même mourir du coup. Et c'est vrai que c'est, en fait, je pense que c'est, il y a vraiment une, du coup, de ma part, une lassitude de voir que, en fait, je m'aperçois et que voilà, qu'il y a une échelle en fait de priorité en fait dans le cahier antiraciste. Et c'est vrai que tout ce qui est LGBT-phobie, c'est pas, ça fait pas partie du cahier des charges en fait. Pour l'instant, c'est pas une préoccupation. Donc c'est comme si on nous demandait soit de mordre le frein et de se taire, ou de s'organiser ailleurs mais loin. I've been chasing the moon and the stars, 'cause I've been trying to be where you are. Could it be that I'm searching too hard? I wish you'd come and find me. Won't you come and find me? 'Cause I'm down when you're far away, yeah. When you're gone, I don't sleep for days, yeah. I've been stuck in the darkest days, yeah. Can't you see what I'm trying to say? I'm nothing without you. I'm nothing without you.
Et justement, tu disais que tu te sentais peut-être encore plus scrutée en tant que parent. Dans quelle mesure ça peut être une fierté et aussi un poids, cette homoparentalité aujourd'hui?
C'est une fierté pour moi parce que du coup je me dis que, alors que, mais moi j'en étais convaincue que les femmes n'ont pas besoin d'hommes pour vivre, pour s'accomplir, pour avoir une vie équilibrée et financière totalement indépendante. Donc du coup, on va dire rajouter cette casquette homoparentalité en fait dans mon petit sac, ça montre en tout cas au plus sceptique que on sait que c'est possible d'être une femme active, d'être une femme qui est engagée sur des questions politiques et sociales, d'élever des enfants et de les élever en tout cas un peu comme tout le monde, avec des difficultés que ça implique et aussi avec les succès aussi que ça engendre. Donc ouais, une grande fierté en fait de pouvoir le faire, d'avoir le privilège aussi de le faire, de pouvoir aussi avoir des personnes autour de moi qui m'aident, donc de pas forcément avoir en tout cas de modèles de femmes noires en tout cas visibles en France qui mènent une vie comme la mienne, mais c'est vrai que j'ai des représentations de femmes américaines noires, voilà, donc du coup ça, il y a une émulation et je me dis ouais, c'est possible. Je trouve que la représentation, c'est important de se dire qu'effectivement, on peut réussir, on peut être, on peut vivre. Mais même dans la simplicité la plus basique en fait, de la vie, en fait, se voir dans un spot publicitaire, se voir de s'entendre, parler de nos vies, de notre communauté et dénuer de préjugés, dénuer aussi d'exotisation de nos existences et aussi de nos souffrances, parce qu'il y a aussi beaucoup de porn, oh les pauvres, hein, ils ont des vies misérables, ils s'en sortent pas, ils ont que des malheurs et blablabla. Donc une visibilité beaucoup plus juste en fait et beaucoup moins caricaturale de ce qu'on est, de nos vies en fait. Et donc pour moi la représentation, c'est là où pour moi elle est importante, parce que ça normalise du coup, et on ne devrait pas le dire, mais nos existences en fait. Et ça ne nous rend pas exceptionnels en fait d'être juste des êtres humains. On fait comme tout le monde en fait, et c'est aussi là où ma parentalité elle s'exprime, c'est-à-dire la normalité, c'est-à-dire que comme tout le monde, je lève ma fille pour aller à l'école le matin, je l'emmène à l'école, je vais au travail, enfin, toutes les préoccupations de n'importe qui, en fait, de la normalité. Et donc, pour moi, c'était important. Et c'est vrai que quand je crée ce blog, c'est que, encore une fois, je me vois pas, en fait. Je vois pas des femmes comme moi, des femmes qui vivent ma vie, des femmes qui ont mes préoccupations, en fait. Et donc, je me dis... J'ai toujours aimé écrire, et je me suis dit, bah, en fait, fais-le.
Et d'ailleurs, récemment, je crois que tu as interpellé une marque dont je ne citerai pas le nom. On ne va pas leur faire de la pub non plus. Et en fait, c'était quelques temps avant le mouvement, enfin la vague Black Lives Matter. Et je ne sais pas si tu as eu une réponse depuis. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur... Bah justement, ça rejoint un peu cette idée de représentation.
Oui. Alors très simplement, je suis cliente depuis des années d'une marque, on ne citera pas effectivement le nom, où j'achète, je pense, peut-être en moyenne 6-7 paires de chaussures chaque année. Donc quand même, en tout cas pour moi, une certaine somme. Et donc je reçois aussi donc, des newsletters de la part de cette marque. Et bon, de temps en temps, je les ouvre et de temps en temps, je ne les ouvre pas. Mais bon, là, il y avait le confinement. Et donc, je les ai ouvertes. Et ce qui m'a interpellée, en fait, c'est que le positionnement de cette marque pendant le confinement, c'était de faire, du coup, proposer des... Elle disait qu'elle allait faire des shootings à la maison. Et très naïvement, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'y ai mais vraiment cru. Je me suis dit, bah, c'est super. Si c'est vraiment des shootings faits à la maison, donc forcément, ça veut dire des clientes. Et donc des personnes qui me ressemblent, peut-être une chance. Et en fait, je reçois une première newsletter et je vois que, ok, une deuxième. Et au bout de la troisième, j'en parle avec une amie qui s'appelle Dominique. Et on se dit, mais il y a un problème en fait dans leur newsletter. On ne comprend pas le « comme à la maison, ça ne va pas ». Et donc j'ai reçu toute une série de mails du coup de la branche marketing en fait de cette marque qui me disait ah oui c'est vrai mais en fait il y a eu le coronavirus et donc ça a un peu chamboulé un peu nos plans et du coup on s'est plié vers des personnes qui ont l'habitude en fait et donc là j'ai un peu interpellé la personne en disant mais en fait les personnes que vous dites être des from home, en fait, elle ne diffère pas de votre feed habituel, en fait. Donc, moi, j'ai quand même pris le temps d'aller regarder un peu les profils des personnes qu'elles mettent, du coup, en lumière. C'est que des personnes qui ont des 100K, 40K de following, donc un fort taux de retour, en fait, sur leur communication. Donc, on est loin de la petite cliente basique qui va acheter ses chaussures dans son magasin préféré, en fait, de sa marque préférée. Donc, il y a totalement, en plus, un mensonge qui est enjolivé derrière. Et donc, ça m'a un peu excédé. Donc, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai interpellé, du coup, ma petite communauté. On en a beaucoup discuté avec les personnes qui me suivent et avec qui je discute habituellement donc, sur mon profil Instagram. Et du coup, ça a donné naissance du coup à un article. Et effectivement, toute cette vague, en fait, c'était juste un petit peu avant, effectivement, de tout ce qui s'est passé avec le meurtre de George Floyd et du coup tout ce qui était représentation du corps noir, en fait, et qu'on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, ce porn de nous représenter toujours le comme d'ailleurs, comme ils le veulent, toujours en plus dans des postures où notre image est utilisée à notre insu, dans des scènes de violence. Et quand on nous représente, des fois c'est mal, des fois c'est caricatural, rempli de préjugés, ou sinon on est une caution en fait, caution, on a fait notre quota en fait. Et donc ouais, c'est difficile en fait de se rendre compte qu'aujourd'hui on est obligé encore d'avoir ce discours et qu'on se rend compte que ça ne va pas. Juste après tout ça, juste après toute cette dénonciation même en France de fait de non-diversité de rédaction, de non-diversité dans les médias, dans plein de choses, on se rend compte que bah, 2-3 semaines après, les marques se retombe dans ces mécanismes. Je crois qu'il y a une marque qui a sorti une collection exotique sur l'Océanie, j'en sais rien. Donc, en fait, on n'apprend rien. Et on se rend compte que c'est de l'ignorance volontaire, en fait. Pour moi, c'est de l'ignorance volontaire.
J'ai l'impression qu'on est des hors-série, en fait, à chaque fois. Nos vies sont des hors-série. Et on met en lumière quelques personnes.
Black issue.
Black issues, exactement.
Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire?
Waouh. Non, je pense pas. Ou peut-être effectivement dans une niche très 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 petite et dans que dans certains à certaines occasions, mais non.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force ?
Aujourd'hui, ce qui me donne de la force, c'est de de croire en ce que je suis, croire en ce que je fais, croire aux personnes que j'aime et plus particulièrement la personne que j'aime. Et donc c'est vrai que du coup ça me donne de la force, ça me donne de l'espoir, ça me donne aussi envie de continuer, de briser plein de choses, de casser des chaînes, de m'investir encore plus dans ce qui m'anime et dans cette justice en fait sociale que je me dis que je peux rétablir à mon échelle, à moi. Et puis mes enfants aussi. Je me dis que du coup, ils ont plein de choses à vivre, des belles choses en tout cas j'espère, et que modestement et humblement, moi, leur mère, leurs parents, je leur mets à disposition en tout cas je le meilleur. Et donc c'est ça qui m'anime, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a potentiel à se décourager en fait. Et ça, chaque minute. Donc voilà.
Merci Audrey.
Merci beaucoup.
C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées.
Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent. À retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue.
Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus.
Merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.